Et tu vois, je voyais le nez beaucoup plus grand, les mains beaucoup plus grosses aussi par rapport à la... Enfin,
oui, parce que tu les as touchées longtemps, les mains.
Ouais, c'est marrant, la vision qu'on a avec les mains.
Je m'appelle Juliette Barthélémy, je travaille au Palais des Beaux-Arts, au service médiation et implication des publics, et plus spécifiquement à l'accès des œuvres d'art et aux moyens d'accéder aux œuvres d'art donc de manière ouverte à tous.
Voilà, donc on va présenter une exposition temporaire qui a une caractéristique, c'est une exposition, comment on peut dire, tactile.
Oui, elle est tactile, c'est son principe, d'ailleurs elle s'appelle « Prière de toucher ». Donc c'est une invitation à toucher dans un lieu où normalement c'est interdit.
Donc c'est une façon de revisiter peut-être des œuvres pour certains qui sont voyants et pour des non-voyants de se les approprier.
Oui, tout à fait. En fait, on invite quand même à vivre une expérience. Je pense qu'il faut se détacher de la visite classique du musée. Déjà, comme on interpelle le visiteur en lui disant « tu peux toucher », alors que d'habitude, tu ne peux pas, c'est un peu déstabilisant. Mais à le vivre en essayant d'y chercher, peut-être de ne rien chercher d'ailleurs, en étant vierge de toute attente et de se laisser porter parce qu'on a mis en place tout un dispositif pour vous accompagner à la visite. Donc, on vous accueille en vous proposant de vivre effectivement l'expérience dans le noir. D'être accompagné, souvent on est en binôme, mais sinon on vous trouvera un binôme, de porter un masque pour l'un des deux membres du binôme et d'aller à la découverte de l'exposition en étant privé de ce sens de la vue. Et on vous positionne devant une œuvre et on vous laisse la découvrir sans vous donner d'éléments en fait, de repères. Et c'est quand même intéressant de se rendre compte qu'on va par le toucher percevoir des choses par le toucher, par le corps en fait, et cette relation qu'on met en place avec une œuvre d'art sculptée, on va découvrir des choses qui vont se révéler vraies une fois qu'on va enlever son masque et puis qui vont se révéler du domaine de la sensation pour celui qui arrive et qui est non ou malvoyant, hein, qui aura une perception aussi très, une grande proximité avec l'œuvre qu'il n'a pas d'habitude quand il est en visite au musée. Il y a quand même beaucoup de frustration finalement.
Alors, Albert?
Bah écoute, je sais pas, c'est un animal ça, je crois, non ?
Alors qu'est-ce que tu penses que ça peut être autre que ce que tu viens de dire ? Quelque chose de plus, on va dire, qui n'a pas de sexe, quoi ?
Un ange.
Bravo !
C'est un ange.
L'ange déchu d'Auguste Rodin.
Ah bah oui, d'accord.
Alors pour un voyant qui découvre, après avoir eu les yeux bandés, une œuvre, souvent il essaie de la mettre en rapport avec d'autres œuvres qu'il a vues. Pour un non-voyant, comment ça se passe ?
Je pense que la recherche, elle n'est pas la même. Alors je ne pourrais pas me mettre à la place d'un non-voyant, ne l'étant pas moi-même, mais je pense que là, on va accompagner davantage la découverte pour donner des mots et créer une image mentale de ce qui est en train d'être touché. C'est assez intéressant parce que finalement, quand on fait l'expérience avec un voyant qui est masqué, on va rester vraiment dans le domaine des sensations et d'analyser ce qu'il a vu, sa surprise en découvrant et qu'est-ce que ça peut être, cette recherche, vraiment cette expérience. Et par contre, quand on fait les visites avec des non-voyants, on va être beaucoup plus sur l'aspect scientifique de l'œuvre. C'est intéressant parce qu'en fait, il va très vite dépasser ce côté « je touche et je repère ». Il a l'habitude, en fait, de toucher, en tout cas de partir de se toucher. Et on va très, très vite être dans l'analyse. « Ah ben voilà, là, ce que tu touches, ben, ah c'est quoi ce toucher-là ? Eh bien oui, c'est une gerbe de blé. Ah d'accord, mais oui, puisque la sculpture représente une saison qui va être associée à un symbole, etc. » Donc, on va être très vite dans l'analyse et aussi percevoir comment une Corée grecque, elle est distincte d'une œuvre du 18e de Houdon parce que dans ce qu'on a touché, on a senti que la manière de travailler n'était pas la même. Et je trouve ça intéressant d'inverser, d'avoir un discours scientifique avec des personnes non et malvoyantes et d'avoir un discours expérientiel avec une personne voyante. Là aussi, on renverse tous les codes finalement.
Donc là, pour cette expérience-là, on a des objets en 3D, hein, donc des statues, etc. Pour les textes, les non-voyants peuvent éventuellement utiliser le braille pour décoder. Est-ce que pour les peintures ou les photographies, il y aurait moyen de faire des choses dans un certain relief, je ne sais pas, qui puisse permettre aux non-voyants de se les approprier, peut-être de les comparer, de les analyser ?
Donc on distingue bien la personne qui est non-voyante de naissance d'une personne qui est malvoyante ou non-voyante tardif, parce que justement la conception des images ne va pas être la même chez un ancien voyant. L'image, elle existe et il se forge une image à partir de ce qu'on va lui donner à découvrir à l'oral ou au toucher. Après, il existe des reproductions d'œuvres qui sont tactiles. On en fait des interprétations, puisqu'on ne peut pas une reproduction d'une œuvre d'un artiste hollandais du XVIIe, ça donnera la même chose, mais il n'y a pas d'intérêt à la toucher, je dirais. Au-delà peut-être de la technique, on utilise des empattements, des choses en relief, etc. Mais, ou si vous touchez un Van Gogh, là vous aurez aussi cette question, vous comprendrez qu'il travaille avec des empattements, c'est comme s'il mettait son empreinte dans sa peinture. Après, donc il y a des interprétations, on a ici au musée l'interprétation du tableau de Bruegel, par exemple, le dénombrement de Bethléem. Ça sont des œuvres à qui on donne du relief pour qu'elles soient perceptibles. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est tout le discours qui va accompagner. Et je sais que pour certains anciens voyants, ce qui est aussi important au-delà de toucher l'œuvre, ça va être de l'accompagner d'un discours très pointu parfois. Quelqu'un qui était passionné d'art et qui est devenu non-voyant, il va continuer à aimer l'histoire de l'œuvre, l'histoire de l'artiste. L'imagination va venir construire finalement cette connaissance. La connaissance, là, elle n'a pas vraiment besoin d'avoir une forme, je dirais. Après, plus de manière peut-être plus élargie, il y a la question de l'accessibilité. C'est comment rendre les œuvres accessibles. Ça peut être, je découvre une œuvre par son odeur. Je découvre une nature morte de Van der Haast du XVIIe parce qu'on m'en fait sentir on me fait sentir de quoi elle est composée. Et alors, peu importe que je ne la vois pas, finalement, je l'ai vécue. J'ai vécu mon expérience avec Van der Haast et on m'a fait voyager à travers le XVIIe. J'ai compris comment on vivait en Hollande, même si je n'ai pas vu qu'il y avait une mouche qui était posée sur la poire, même si je n'ai pas vu que c'était un tableau qui faisait 15 cm sur 20. Peu importe, en fait. C'est comment on va transmettre cette histoire de l'œuvre d'art. Moi, je trouve que c'est ça qui est important. Et comment on a fait transparaître des émotions à travers l'appréhension de l'œuvre.
Découverte en enlevant le masque.
Tu vois, je la croyais beaucoup plus tournée vers la gauche, et en fait, elle est tournée vers la droite. Et c'est en découvrant ses seins que je me suis rendu compte qu'elle était tournée vers la droite. C'est étonnant.
Je ne sais pas si on peut ressentir la beauté du visage.
Non, pas tellement. Pas tellement. On trouve les yeux, le nez, la bouche, mais de savoir si c'est beau, harmonieux, si ça louche ou si ça louche pas, moi ça non.
En même temps, il y a un aspect lisse qui pourrait amener un certain plaisir.
Oui, c'est sûr que le village très lisse, très pur dans une sorte.
Ça le rend peut-être beau.
Peut-être. Alors après, on a beaucoup plus de mal quand on est dans les cheveux pour trouver qu'est-ce que ça représente, où commencent les cheveux, où commence le chapeau, le bonnet, là. Bon. Là, c'est beaucoup plus aléatoire. Tandis que le visage lisse, le nez, la bouche, tout ça, on connaît, donc on reconnaît.
Nous sommes toujours au Palais des Beaux-Arts de Lille avec Juliette Barthélémy pour l'exposition « Prière de toucher », une expérience tactile à découvrir jusqu'au 27 février 2023. Donc Lille est une des 6 étapes, si j'ai bien compris, de cette exposition. Elle a été conçue où et avec qui ?
Elle a été conçue par le service des publics et la conservation du musée Fabre de Montpellier. C'est eux qui ont eu cette idée-là et c'était eux-mêmes inspirés de la galerie tactile du Louvre, puisque le Louvre a été le premier dans les musées français à proposer une galerie tactile. Et donc ils ont travaillé, la première étape d'ailleurs comprenait des moulages du Louvre en plus des reproductions que nous avons. Et quand on a décidé avec le FRAME, donc le French American Museum Exchange dont on fait partie, qui est un réseau de musées français-américains, on a décidé que cette exposition serait itinérante et qu'on allait la déplacer d'un musée à l'autre. À ce moment-là, on a remplacé les reproductions du Louvre par des reproductions qui représentaient chacun des musées de l'itinérance. Donc on a des œuvres de Lyon, de Rouen, de Lille, de Bordeaux, de Montpellier. J'en ai oublié un, Montpellier, Nantes, Bordeaux et Rouen. Pardon, c'est Rouen que j'avais oublié.
Voilà, donc on peut dire aussi que dans la conception, les concepteurs ont fait appel à des non-voyants pour mieux définir leurs problématiques et peut-être leur permettre d'élaborer des choix dans des univers qu'ils ne connaissent pas forcément bien.
Tout à fait, ils ont même été collaborateurs sur la rédaction des outils. De la même manière, on a travaillé aussi avec des partenaires pour réaliser des contenus en audio description. Donc ceux-là, ils ont été faits à Montpellier, par l'équipe de Montpellier. Ici, on a réalisé l'outil Falk, donc l'outil en facile à lire et à comprendre qu'on a fait avec les AT Je Map, donc avec des adultes en situation de handicap mental, mais avec qui on a travaillé pour faire un livret qui soit accessible à tous. Donc oui, le fait d'être en participation active dans la conception de l'exposition, ça permet de répondre au mieux à leurs attentes et à leurs besoins, plutôt que de le faire en interne avec des gens qui n'ont pas cette spécialité ou cette caractéristique. Si on veut quelque chose d'universel, faut le concevoir universellement, sinon le résultat, il ne l'est pas universel, justement.
Voilà donc une expérience à vivre, une expérience sensorielle, une expérience aussi intellectuelle d'une certaine manière.
Tout à fait. Je pense qu'on ne peut pas séparer le sensoriel de l'intellect, en fait. C'est intéressant de l'associer. Et vous avez tout à fait raison. En fait, c'est ça, c'est que c'est une... On vient dans un musée pour une démarche contemplative ou intellectuelle, justement. Et on ajoute la dimension expérientielle et on se rend compte qu'elle va participer à cet intellect et pourquoi pas à cette contemplation. On se rend compte qu'on peut contempler aussi par d'autres sens que la vue.
Voilà, prière de toucher, donc à voir au Palais des Beaux-Arts de Lille
jusqu'au 27 février, et c'est une exposition qui est gratuite, qui a lieu dans l'atrium du musée. Donc pendant ces 4 mois et demi, vous aurez accès à l'exposition, à la galerie de sculpture qui en fait partie aussi, de manière gratuite.
Merci beaucoup.
Oui, je vous en prie.
Merci à Juliette Barthélémy pour la présentation de cette exposition « Prière de toucher » à découvrir au Palais des Beaux-Arts de Lille jusqu'au 27 février 2023. C'était un reportage de René Lavergne de Radio Campus Lille.